Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If I could just give you a quick pitch. I heard about this pool party and it's all about people feeling comfortable in their own skin.
The last thing we need is everybody feeling comfortable in their own skin. That would be the 70s.
Danny, please go away.
I've been letting people dismiss me or say to me my entire life. This may be the best day of my life.
Se sentir bien dans son corps, c'est tout ce que veut Annie, interprétée par la talentueuse Heidi Bryant dans la série Shrill, qui prône la fat acceptance. Pourtant, se sentir bien dans son corps quand on est en surpoids, ça semble difficile dans un monde où quand on tape sur Google « actrice grosse », on tombe sur Kate Winslet. La représentation des femmes grosses à l'écran est non seulement extrêmement limitée, mais en plus très erronée, voire exploitée comme un ressort comique. C'est donc l'heure, pour votre podcast préféré, de se pencher sur la question de la grossophobie dans les films et les séries. Et croyez-moi, aujourd'hui, on a du pain sur la planche pour déconstruire tout ça. Allez, on se retrousse les manches et bienvenue dans Affiché.
Boys, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business, and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado.
Dracarys.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Affiché, le podcast qui parle de films et de séries à travers un angle féministe. Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle. Et aujourd'hui dans Affiché, on va parler représentation à l'écran, mais aussi derrière la caméra des femmes grosses. Et autant vous le dire tout de suite, le cinéma et les séries véhiculent pour beaucoup de la grossophobie. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de déconstruire tous les clichés autour des femmes grosses érigés par nos écrans de télé et de télévision. Et pour ce débat, j'ai avec moi Marie de Brouwer. Je le prononce bien.
C'est Marie de Brouwer.
De Brouwer, pardon. J'ai failli te demander en plus au début.
Il est compliqué à prononcer mon nom de famille, donc pas de problème.
Donc tu es journaliste, podcasteuse, autrice et réalisatrice. Et on a vu récemment sur France TV / le documentaire La Grosse Vie de Marie. Et j'ai aussi avec moi Célia Sauvage, docteur en cinéma que vous avez déjà entendu dans deux épisodes d'Affiché sur les teen movies et les films d'horreur. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Salut.
Je suis ravie de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour qu'on identifie vos voix ? Et en prime, vous allez donner l'actrice ou la réalisatrice grosse qui a su, selon vous, révolutionner le game en termes de représentation des femmes grosses à l'écran. Marie, je commence par toi.
Bah oui, bien sûr. Bah du coup, Marie de Brouwer, comme t'as dit, j'ai tout plein de petites casquettes. Je fais plein de trucs sur Internet et tout ça. Et que dire d'autre ? Moi, je parle de grossophobie très souvent parce que j'ai fait du coup ce petit documentaire sur France TV / pour expliquer. C'est vraiment le béaba de la grossophobie, quoi. C'est un petit doc pour en parler. Et alors, pour qui révolutionne le game ? Pour moi, pas grand monde. Il y a personne, mais qui a révolutionné mon game à moi, en tout cas, qui, moi, m'a fait du bien. Il y a une série qui s'appelle My Mad Fat Diary.
My name is Ray. It's 1996. I'm 16, 16 stone, and desperate for a shag. Either I'm gonna be too big for the world, or the world's gonna be too big for me.
Le journal d'une ado hors norme en français.
C'est vrai ?
Ouais, c'est hyper ça bien. Le nom en français. Ouais,
elle est la vraiment... traduction.
la trad... pas fan, mais c'est l'actrice qui s'appelle Sharon Rooney, ou Rooney, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais c'est la première fois que je voyais un perso qui me ressemblait, et donc ça fait du bien. Après, c'est pas non plus hyper connu, hyper... voilà, c'est ma petite ref à moi.
Je crois que ça avait quand même un peu marché, enfin, on en a quand même pas mal entendu parler, c'était quoi, en 2013 ?
2013, ouais, 2012, mais ça a plus marché en Angleterre que chez nous, hein, quand même. Ouais. Chez nous, j'ai l'impression que c'est un peu arrivé après et qu'on s'en est un peu saisi. Mais là, par exemple, en cours, j'en ai parlé avec des étudiants, parce que je donne cours sur les teen séries. La plupart ne connaissaient pas, quoi. Mm. Il y en avait deux, trois qui connaissaient, mais c'était passé un peu au-delà, quoi.
Ah ouais, ok. Et bien, toi, Célia, je te laisse te présenter, du coup.
Ouais, donc Célia Sauvage, et je suis chercheuse en cinéma, et j'enseigne, du coup, à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et pour répondre à la question, du coup, moi, je vais faire deux en un. Du coup, j'ai une actrice réalisatrice qui, pour moi, en tout cas, à un moment donné, où je me suis dit qu'il y avait une petite révolution en marche, c'est Lena Dunham dans sa série Girls. Ne serait-ce parce que elle joue et elle écrit et elle réalise.
You could not pay me enough to be 24 again.
Well, they're not paying me at all.
I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice.
Et surtout, moi, j'ai grandi avec les gros méchants de Disney et toutes les fast-food comédies des années 90. Et en fait, pour moi, voilà, les personnages, je me posais toujours un peu cette question de c'est un peu étrange quand même, enfin, la représentation des gros. Et en même temps, voilà, j'étais une petite gamine mince qui n'était pas très concernée par ça. Donc, je me disais juste, c'est un peu offensant, mais en même temps, je ne sais pas quoi dire dessus, je suis trop jeune. Et quand j'ai vu Girls, je me suis dit, ah, ok, c'était à un moment donné où je me faisais beaucoup plus des questions, j'avais déjà un regard beaucoup plus critique et beaucoup plus féministe et je me suis dit ok, et tout ce qui était intéressant c'est comment la presse en a parlé aussi. Parce qu'on comme on a parlé du corps de Lena Dunham, je me suis dit ok, il y a vraiment quelque chose à faire, les gens
surtout
sont très étranges.
C'est un sujet qu'elle n'aborde pas du tout dans Girls, c'est jamais le sujet et tout le monde s'est focus dessus, c'était ça aussi qui était, je trouvais, hyper déroutant.
Et en même temps, parce que son corps est son outil de travail. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est hyper normalisé et personne n'en parle dans la série. Et en même temps, elle se vend avec ça, puisqu'elle passe quand même son temps à poil. Et en même temps, c'est cool, parce que du coup, son corps est hyper visible et en même temps, n'est jamais un enjeu narratif. Et donc, du coup, forcément, elle l'a exposé. Et les gens sont tombés dans le piège, entre guillemets, et les gens ne parlaient que de ça. Et vraiment, je lisais les interviews américaines, des gens qui discutaient sur « Oh my God, comment je vais décrire son corps ?» Alors, t'es pas obligé. Mais on sentait que c'était un enjeu, quoi. De comment on va en parler, parce que si j'en parle pas, il y a peut-être un malaise aussi. Et ouais, je pense que c'est la première série où je me suis dit « Ok, il se joue quelque chose, et dans la réception des œuvres, et aussi dans quel corps on expose, entre guillemets.
» Et j'avais pris un extrait d'interview de Lena Dunham chez Ellen DeGeneres. Et c'était un moment où, en fait, elle avait perdu du poids. Et du coup, les gens lui étaient tombés dessus aussi. Et elle disait, c'est tellement dingue, j'ai passé 6 ans de ma carrière à me faire traiter de vache sur Internet. Bébé vache, vache vieillissante. J'ai jamais trop prêté attention à ça. Je me disais que ceux qui prenaient le temps de dire des choses négatives à propos de mon poids sur le web ne sont pas des gens que j'avais spécialement envie d'impressionner. Et en fait, là, donc, elle parlait du fait que les gens avaient souligné qu'elle avait maigri. Et elle dit... C'est juste la preuve incontestable qu'en tant que femme à Hollywood, tu peux jamais gagner.
Et en plus, ce qui est assez surprenant avec elle, vraiment justement sur la réception de son corps, etc., c'est que non seulement on lui est tombé dessus quand elle a maigri, alors qu'en plus, elle était malade, donc voilà, elle a aussi maigri pour des questions de santé. Et là, elle a repris beaucoup de poids et les gens lui retombent dessus.
En
lui disant, là, ça va pas. Enfin, oui, t'as repris du poids, mais t'es plus grosse qu'avant. Et du coup, c'est sans fin. Enfin, on se dit, mais quel est le problème? Et les gens ne discutent que de ça quand ils parlent d'elle. Et c'est vrai que quand on regarde ses réseaux sociaux, du coup, c'est ce qu'elle va afficher en premier.
Ouais,
elle va aussi documenter son corps, l'évolution de son corps, en parler.
Elle parle beaucoup de santé mentale aussi.
Et c'est intéressant de voir justement comment, soudainement, c'est quelque chose qu'on a dû discuter, en fait, aussi. Et se poser la question de comment on en parle. Et comment je fais attention, parce qu'il ne faut pas en même temps qu'on me tombe dessus. Et en même temps, chacun a dû déconstruire un peu ce rapport-là. Qu'est-ce qu'on représente et comment on en parle, entre guillemets.
Bah, ça tombe bien que tu parles de déconstruire, parce que ça va être notre job aujourd'hui. Et un job, c'est une lourde tâche qui nous incombe d'en afficher. Donc vraiment, merci à toutes les deux d'être là. On devait aussi recevoir Daria Marx aujourd'hui, qui est militante contre la grossophobie et cofondatrice du collectif Gras Politique. Mais malheureusement, elle a eu un empêchement au dernier moment, donc on l'embrasse. Mais si vous voulez l'entendre, alors je suis très sympa quand je fais ça, mais je vous conseille l'épisode de Sériland sur Europe 1, sur la représentation des gros dans les séries dans lesquelles elle participe. Voilà, je conseille d'autres podcasts, je suis vraiment une âme très charitable. Mais voilà, si vous avez envie de l'entendre sur le sujet, c'est là qu'il faut aller écouter, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on va essayer de pointer d'abord un petit peu du doigt tout ce qui relève de la grossophobie latente dans tous les films et les séries. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait donner un peu une définition de la grossophobie ? Marie, tu le fais très bien, est-ce que tu peux...
Bien sûr, la grossophobie, c'est rigolo parce que c'est vraiment la discrimination qu'on demande de définir parce que c'est récent en fait dans
Puis
les combats.
C'est hyper latent,
Ouais. La grossophobie, c'est les discriminations que vivent les personnes grosses au quotidien. Et donc, ça peut aller de la violence quotidienne, des insultes, de l'humiliation de personnes. Mais il y a aussi des problèmes dans le système, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux soins comme tout le monde. On peut se faire humilier par le corps médical, etc. On a une discrimination à l'embauche qui est évidente. On n'a pas accès à l'espace public comme tout le monde. Donc, en fait, c'est toute la vie, de l'enfance à l'âge adulte. Quand on est gros, bah, on est constamment discriminé. Donc c'est comme ça à peu près que je définis la grossophobie. C'est clair.
Oui, c'est très clair. Merci.
Et
beaucoup.
Le fait de ne pas être représenté dans le cinéma, typiquement, ça fait partie de ce problème.
Ouais, c'est clair. Mais du coup, comment se matérialise la grossophobie dans les films et les séries ? On va essayer de décrypter un petit peu ça, de découper ça. Et notamment, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est les différences de traitement entre les hommes et les femmes gros, que ce soit dans la vie ou à l'écran. En fait, c'est hyper différent. Pour moi, l'homme gros, c'est quelqu'un de plutôt puissant qu'on va mettre, par exemple, dans une série, n'importe laquelle, ça va être le père de famille. Enfin, voilà, ça va être quelqu'un
de puissant. Les Sopranos, par exemple.
Ouais, les Sopranos, tout à fait, ouais. Alors qu'une femme grosse, l'enjeu va être sur son poids. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a, il y a plusieurs différences de traitement, mais surtout, ça dépend aussi de gros comment. Parce qu'un homme très, très, très gros, c'est aussi généralement une image assez dégueulasse. Moi, je prends souvent l'exemple de la série Brooklyn Nine-Nine, où il y a les deux personnages, Scully et Hitchcock, où la blague est uniquement sur le fait qu'ils sont gros, dégueulasses, qu'ils font que bouffer, etc. Alors que tout le reste de la série est plutôt chouette.
Oui, c'est ça, c'est vraiment étrange.
Non, mais c'est horrible, elle est hyper récente, cette série. Ils ont essayé de tout faire pour être un peu, de faire de la représentation partout. Mais sur les persos gros, c'est horrible du début à la fin.
Ils sont vraiment très méchants, en plus.
Ouais, puis même leur backstory, c'est qu'ils ont découvert, ils ont découvert des chicken wings dans un resto et qu'ils sont devenus énormes. Oh, yes, trop bien. Mmh. Vraiment, c'est assez terrible. Et du coup, si t'es un peu gros, genre un peu patriarche, un peu nounours, tu peux avoir une bonne image en tant qu'homme. Alors qu'une femme, c'est vrai que même un petit peu d'embonpoint, tout de suite, ça va être ok, c'est la grosse de service dans le film ou dans la série, quoi.
Mm-hmm. Je pense que c'est très lié aussi à la différence genrée d'injonction aussi du poids, effectivement, entre les hommes et les femmes, même d'un point de vue industriel. Ça veut dire aussi quand on a effectivement quelle est la limite du poids acceptable chez un homme et chez une femme. Effectivement, il y a quand même pas mal d'acteurs mecs qui sont clairement un peu au-dessus de la norme, si ce n'est carrément au-dessus de la norme, qui réussissent et à qui surtout il n'y a aucune injonction de maigrir, ni par les producteurs et ni par la réception, le public, les critiques, etc. Enfin, des mecs comme Jack Black ou Jonah Hill, ou qu'on maintenant on va féliciter parce qu'il a perdu du poids, mais en vrai personne ne lui a demandé et personne ne lui aurait demandé. Alors que chez les nanas, moi je me rappelle, j'ai vraiment grandi avec Titanic et tous les discours autour de Kate Winslet qui était trop grosse, et je me disais, mais my god, enfin vraiment,
normée. Socialement, elle est vraiment... Ouais.
Et elle a beaucoup parlé de ça en presse, en disant que, enfin voilà, avant chaque tournage, elle avait un poids minimum qu'elle devait atteindre, que les mères, du coup, à la sortie d'école, la voyaient quand elle allait chercher ses gamins et lui disaient, ah ouais, enfin... En fait, t'as pas du tout le même poids que dans les films. Et donc, en fait, elle prenait sans arrêt comme ça des espèces de baffes, d'injonctions sur son poids, alors qu'on se dit, ça va. Enfin, Kate Winslet, c'est tranquille. Et même, j'ai grandi avec Bridget Jones, qui doit faire quoi dans les bouquins. J'ai re-regardé hier, dans les bouquins, elle fait 56 kilos. Oh my god, elle est grosse donc. Et donc dans le film, elle est vraiment présentée comme grosse, dépressive, rien ne va. Et donc on sent que chez les femmes, il y a vraiment ce truc, ou même Scarlett Johansson qui a passé son temps à se faire traiter de grosse alors qu'il n'y a rien quoi. Et chez les hommes, c'est quand même plus simple. Après, je suis d'accord que chez les hommes aussi, il y a aussi un poids à ne pas dépasser. Mais ils ont quand même une carrière potentielle. Et après, par exemple, je pense à John Goodman, qui est un acteur qui a pas trop réussi à aller côté Hollywood, qui était vraiment dans le cinéma indépendant, donc en alternative, mais effectivement, qui joue le gros service. C'est-à-dire qu'il le joue très bien, mais il est toujours en sueur, il est toujours rouge, il est toujours en train de se plaindre, d'être lent un peu, et donc toute sa carrière se centrait sur ça. Donc il a hyper bien réussi, mais en même temps, il a des rôles secondaires. Donc c'est le rôle secondaire phare dans le cinéma indé, mais voilà. Alors que c'est un excellent acteur, jamais il a eu le premier rôle, par exemple. Et ça, je pense que c'est aussi la différence. Mais pour les femmes... Il y a une petite place à prendre en comédie, mais en dehors de la comédie, il n'y a pas de place à prendre, quoi.
Le comic relief de la femme grosse, c'est un truc qui se passe énormément en comédie, où tu as souvent la... Alors, soit c'est dans les sitcoms, moi je pense beaucoup à Friends, où en fait, tu as le running gag que Monica, elle était grosse quand elle était plus jeune, et du coup, bon, elle porte une fat suit, l'actrice, etc. Et en fait, ça devient un truc drôle, et que maintenant... ça va mieux parce qu'elle est mince, mais en fait elle a toujours les mêmes soucis en fait. Enfin, elle est pas mieux dans sa vie ni dans sa peau. Voilà, le en comédie, il y a beaucoup de personnages secondaires aussi. je sais pas, je pensais
Melissa à... Melissa McCarthy, Rebel ouais, voilà. Wilson, ouais, il y en a plein. Et c'est toujours les mêmes vannes. C'est-à-dire que c'est la femme grosse, elle est hyper sexuelle, mais repoussante. C'est-à-dire Melissa McCarthy dans Bridesmaid.
Ouais, ça c'était...
Elle est, moi j'adore ce film, hein. il me fait vraiment marrer, etc. Mais c'est vrai que elle est toujours dans une espèce de séduction, mais à outrance, un peu dégueulasse. Et puis physiquement, elle est pas hyper féminine. Enfin, c'est souvent ça. Rebel Wilson, même dans comment on s'appelle
Pitch Perfect.
Ouais, dans Pitch Perfect, c'est un peu le même truc.
Et après, ça, je trouve qu'on les retrouve aussi beaucoup chez les personnages masculins aussi. Il n'y a pas trop de différence entre les personnages féminins et masculins sur ça. Enfin, moi, j'ai grandi avec des trucs comme Austin Powers, avec Mike Myers qui était en fat suit dans Il fait gras double. Alors déjà, les titres aussi, les noms des personnages sont assez gênants en général. Et c'est ça, espèce de mec hyper gros... hyper suant, qui est toujours en train de faire une vanne sexuelle un peu dégueulasse. Et je trouve qu'on les retrouve quand même vachement chez les mecs aussi. Après, je trouve que la grande différence sur ce rapport-là, sur aussi ce principe du fat suit, déjà l'avant et l'après, de qui a le droit d'être gros et qui a le droit de plus être gros, là, pour le coup, il y a une grosse différence. Déjà aussi en termes d'acteurs, de qui porte un fat suit, qui n'en porte pas. Bon, forcément, c'est des acteurs hyper minces à chaque fois qui en portent. Et donc, du coup, forcément, l'avant et après est possible pour eux. Parce qu'on leur met un costume et donc l'après est possible. Alors que tous les acteurs gros, du coup, il n'y a pas d'avant-après. Moi, je pensais par exemple à Glee, où si on compare deux personnages très différents, le personnage de Mercedes, donc, qui est une ado grosse, noire, qui est pop-home girl, donc qui est quand même assez populaire, etc. Dès la première saison, elle fait d'injonction, elle va à tout prix perdre du poids pour bien rentrer dans l'équipe, etc. Et elle est tellement obsédée par son poids qu'elle va rêver que ses amis sont déguisés en nourriture, en plus, enfin, c'est un peu étrange. Et elle se fait rassurer par l'autre pom-pom girl, Queen, hyper belle, blonde forcément, très mince, et dont on apprend dans un autre épisode qu'elle-même a été grosse. Donc là, on voit l'actrice avec un fat suit. Elle se fait fat-shamer par une autre actrice grosse qui, elle, est grosse, donc qui n'est pas mince et avec un fat suit. Elle se fait fat-shamer, du coup, par une autre actrice. Et en gros, il y a vraiment ce truc de « elle était grosse avant ». Elle portait un costume. Elle l'est plus maintenant. Et avant, elle avait un autre prénom. Donc, elle est devenue presque une autre personne. Ça, c'est possible, du coup, pour les actrices qui sont minces. Donc, c'est quand même hyper particulier de qui a le droit de maigrir ou pas. Et par contre, tous les acteurs et les actrices, et surtout pour les filles, il y a toujours cet enjeu de devoir maigrir. Et en même temps, jamais les séries ou les films vont le permettre. Parce que techniquement, on ne va pas faire aussi maigrir quelqu'un en plein milieu d'un tournage. Mais le contre-exemple, c'était... Je déteste les Marvel. Mais du coup, tout le monde m'avait parlé de Thor qui grossit dans l'un des derniers Marvel. Donc, alors, je ne vais pas dire une bêtise, c'est dans Avengers Endgame, je crois.
Oh là là, j'ai aucune culture Marvel, c'est été...
Pareil.
J'essaye de suivre, mais ouais, c'est vraiment pas Marvel. Ma passion. J'aime beaucoup les comics, mais pas trop les Marvel. Donc, je sais que je prends un petit risque en disant ça. Mais, donc, bref, hyper, c'est la catastrophe pour lui. Enfin, il est au fond du gouffre dans l'épisode d'avant. Il perd absolument tout. Et donc, on le retrouve l'épisode suivant. Il a grossi. Et donc, l'acteur a pris du poids, voilà, qui est le seul un peu exemple où il n'est pas dans un fat suit, il a pris du poids et après, des mois plus tard, il fallait qu'il perde vite et donc on le revoit après in shape, mais qui est un peu l'un des seuls exemples où on voit comme ça, espèce de mec, mais c'est encore lié à gros, dépressif, fond du gouffre et provisoire pour lui. Mmh. Et il y a toujours cette question-là, la transformation, elle est toujours provisoire et où le retour à... L'après, il est toujours OK en fait que pour les acteurs minces. Et jamais les représentations le permettent, ou c'est même pas un enjeu, ou alors c'est un enjeu qui est impossible. Et donc on parlait par exemple du titre de My Fat Diaries et le titre en français Hors Norme. Mais en fait, c'est un peu ça ce qu'on montre. Les personnages dans les fictions, gros, ils sont hors normes. Donc on sait pas quoi en faire. Ils peuvent pas rentrer dans les normes, c'est impossible. Mm-hmm. Même s'ils veulent, c'est impossible pour eux à atteindre, entre guillemets. Et l'industrie ne leur permettra pas.
Mmh. Il y a une actrice qui a joué sur justement cette transformation, qui en a fait une non-transformation, c'est Amy Schumer dans I Feel Pretty.
Ouais.
Après, à savoir si on considère qu'Amy Schumer est grosse.
Amy Schumer, elle n'est pas grosse, par exemple.
Voilà, elle n'est pas grosse.
Je l'adore, je suis une fan d'Amy Schumer, mais elle n'est pas grosse, elle est complètement normée. Ouais. Elle est normale, en fait. Vraiment, Amy Schumer, on la voit dans la rue, on ne se dit pas qu'elle est grosse.
Et surtout dans ses films, parce qu'elle a fait Trainwreck aussi.
J'adore.
Et là, elle avait perdu beaucoup de poids. Elle en avait parlé dans une interview où elle avait dit que ça l'avait beaucoup fait souffrir, en fait, de... Bah, de devoir perdre tant de poids, parce que en fait, elle, enfin, dans ses spectacles, on voit qu'elle a un peu plus de poids, enfin, dans bon point. Et ouais, en fait, elle a subi cette pression pour ça. Mais dans I Feel Pretty, bon, déjà, c'est Hollywood, donc voilà, c'est, ils essayaient de faire un truc, de mettre en scène une actrice qui ressemblait pas à la norme, enfin, pas à Margot Robbie, quoi. Ouais. Et en fait, elle se prend un choc sur la tête. Et tout d'un coup, c'est comme une non-transformation. Elle se regarde dans le miroir, elle fait « Mais je suis magnifique !» Et elle se trouve incroyable tout le reste du film. Et qui, en gros, la leçon, c'est si tu te sens OK avec toi-même, si tu te sens bien dans ta peau, les autres vont être attirés par toi. Et voilà, quoi.
Mais par contre, Amy Schumer, il me semble quand même vraiment dans la presse qu'elle est considérée comme grosse. Par
ah bah
contre,
oui, oui, non, elle est considérée comme. Mais ouais. Je parle en termes de représentation et de. Ouais, ouais. Pour moi, c'est pas une réussite qu'il y ait une Amy Schumer qui monte son corps. Par exemple, moi, Lena Dunham, j'ai adoré Girls, etc. Mais en tant que meuf grosse, genre Lena Dunham, pour moi, c'est encore. Elle est pas très grosse non plus. Enfin, c'est vraiment. Je pense que chacun a son propre spectre de qui est gros, qui ne l'est pas. Mais Amy Schumer, qu'elle soit par Hollywood dit comme grosse, et qu'on lui ait demandé de perdre du poids, effectivement, ouais. Elle en a fait des sketchs après, en disant I am what Hollywood called extremely fat. Alors que vraiment, elle fait un taille 42, enfin, la moyenne, quoi.
Ouais, vraiment.
C'est de la grossophobie. Mais en soi. En termes de représentation, pour moi, c'est juste une femme comme une autre. Genre, à la limite, c'est cool. On ne monte pas des icônes de beauté incroyables. On monte des femmes un peu plus, entre guillemets, normales.
Ouais.
Mais on ne monte pas des femmes grosses quand on monte Amy Schumer.
Oui, oui, c'est clair. Et dans les transformations imposées aux femmes, Célia, je crois que tu es assez experte sur les teen movies.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire, du coup?
Alors, déjà, dans les films, il y a très peu de personnages gros. Enfin, ça, c'est vraiment... Et bon, les personnages qui sont identifiés comme gros, en réalité, ne sont pas du tout gros. Enfin, il n'y a pas du tout de problème de poids. Ça, c'est un peu aussi toujours cette question de curseur. C'est plus visible dans les séries. Mais donc, on en revient à cette question-là. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un enjeu, quand même, pour la plupart des ados, de se transformer, de rentrer dans les normes, typiquement, avant l'âge adulte. Et l'une des normes, bah, effectivement, c'est de se cadrer physiquement, enfin, de se normer, de correspondre à toutes les normes de minceur, de beauté classique. Mais ce qui est assez typique, du coup, toutes les ados grosses et tous les ados gros. Alors, pour les mecs, déjà, il n'y a pas de garçons dans les fictions qui veulent maigrir. Voilà, c'est pas un enjeu. Dans le cinéma, il suffit de voir vraiment l'exemple canonique, c'est Superbad, avec Jonah Hill qui est face à Michael Cera. Bon, bah voilà, Jonah Hill, il est considéré comme clairement pas l'ado mince et filiforme face à Michael Cera. Donc, il y a vraiment ce binarisme hyper visible en plus dans le film. Bon, bah, il n'y a aucune injonction. En plus, tout va très bien pour lui. Il va finir avec une grosse canon à la fin, qui est toute mince, rousse, c'est magnifique, tout va très bien pour lui. Mais chez les filles, il y a quand même cette injonction, c'est-à-dire qu'il faut que j'y pense. Maintenant, la plupart des fictions, elles interdisent. C'est-à-dire cet arc narratif de « je veux y arriver », c'est impossible à un moment donné. Et le grand enjeu différent, c'est ce rapport au désir et à la sexualité. Être mince, être dans les canons de beauté physique, ça permet d'accéder à l'autre Saint Graal, c'est-à-dire être un être désirable, désiré et donc sexuel. Et ça, pour les personnages du coup hors normes, donc qui sortent totalement des normes, c'est presque impossible. Il y a deux cas de figure qui rentrent tout le temps. Et donc, on peut discuter aussi de ce rapport-là. Aussi, est-ce que ce n'est pas aussi extrêmement ambigu et un peu inquiétant que la plupart, du coup, des séries qui essaient d'être un peu bienveillantes. Et c'était le cas de Maïmad Fadjari, qui était assez cool et en même temps pose des questions. Les personnages, surtout de femmes grosses, qui arrivent à se rendre désirables sans perdre de poids, finissent quand même toujours avec un mec qui, lui, est hyper hégémonique en termes de beauté. Beau, fin, généralement totalement blanc. Bon, c'est cool parce que ça leur donne le même privilège que les garçons, qui, eux, n'ont pas eu à se battre pour ça. Donc, il y a quand même pas mal de séries et de films qui, maintenant... Enfin, pas maintenant, en fait. Il y en a quelques-unes qui permettent, donc ça change. Mais, et sinon, l'inverse est... c'est beaucoup plus difficile pour des jeunes filles dans les fictions de d'être désirables. Et donc souvent, elles n'ont juste pas de mec. Et l'exemple canonique actuellement, c'est Sex Education. Je n'ai pas compris ce qu'a fait la série avec le personnage de Viv, qui est grosse et noire. Alors elle, c'est pas du tout Sex Education, quoi. Enfin, c'est vraiment, je vais m'éduquer à l'amitié. Donc elle va être amie avec le beau gosse noir, populaire, sportif, qui lui préférera la jeune fille blanche, très mince. Et là, je n'ai pas compris ce qu'a fait la série. Elle fantasmait sur un jeune garçon blanc et mince, mais personne ne va lui donner de conseils pour l'avoir. Mmh. Elle va juste se dire, en fait, c'est trop cool d'être amie avec le garçon populaire. Et en fait, je ne comprends pas ce que fait la série.
Et sans dénoncer ce truc-là, parce que c'est vrai que quand... là, je sors un peu du cinéma, etc. Mais la grossophobie dans la vie amoureuse et dans la vie sexuelle, il y a ce truc-là de la personne grosse est toujours la bonne pote, et ça se retranscrit forcément au cinéma. Et c'est dans Sex Education que j'ai pas vu. Il dénonce pas ce truc-là, c'est-à-dire qu'elle va être l'amie parce qu'elle est grosse, donc elle est pas désirable. Non, c'est pas dénoncé.
Ah, pas du tout dénoncé. En plus, elle est là pour le garçon populaire qui est quand même un peu infect avec elle, mais elle est quand même hyper contente d'être pote avec lui. Et vraiment, toute la série, je me disais, ok, là, ça va être un peu subversif. Enfin, allez-y, amenez-moi sur ce terrain, je serai contente. Pas du tout. Donc, peut-être que la prochaine saison me donnera tort, et j'aimerais qu'elle me donne tort et qu'ils soient ensemble, mais j'y crois pas beaucoup, quoi. Mmh. Et l'autre personnage qui a pas le droit non plus à un arc narratif un peu en termes de désir correct, c'est le voisin handicapé en fauteuil roulant, quoi. Mais ça dit quelque chose sur qui il n'y a pas le droit. Alors que pour les garçons, dans les fictions, c'est OK. Enfin, ils finissent toujours avec une jeune fille. Donc, on apprend beaucoup plus aux garçons à se rassurer sur ça. Et par contre, les jeunes filles, voilà, non, il faut vraiment, pour aller au bout, soit accepter qu'on n'aura pas de mec, soit avoir un peu de chance et avoir un mec, mais malgré tout, qui doit correspondre au canon de beauté. Il ne faut pas désirer autre chose. C'est aussi la question. Enfin, est-ce que si, du coup, on accepte que ces personnages-là sont hors normes, pourquoi alors ces personnages-là n'auraient pas le droit de redéfinir le désir aussi ? On finit toujours finalement hétéro avec un mec blanc hyper hégémonique dans le fond qui est moche, mais pour les canons de beauté, est le plus beau, quoi. Et ça, c'est une vraie question sur à la fois, c'est une avancée, c'est bien, c'est cool, c'est progressiste de se dire dans My Mad Fat Diary qu'elle arrive à avoir le canon de beauté. Et en même temps, ça pose cette question-là de... on ne remet rien en question en termes de rapport. Et je trouve que même sur tout ce rapport aux fast-food comédies, etc. aussi, tous les personnages qui sont gros ne sont pas désirables. C'est par exemple le Fat Schmidt dans New Girl. C'est vraiment l'étalon séducteur, un peu comique. Mais quand il était gros, il n'était pas désirable. C'est pour ça qu'il a minci. Pareil du coup dans Glee. Monica, elle n'avait personne non plus aussi dans Friends. Et maintenant qu'elle est mince, clairement, elle a quand même beaucoup plus de conquêtes. Il y a aussi ce rapport-là, c'est-à-dire que la désirabilité pour les filles, elle dépend encore de cette injonction-là qui ne bouge pas. Ouais. Et le contre-exemple, je trouve assez cool, c'était dans Euphoria avec Kat.
C'est de la fétichisation. Et c'est vrai que toi, tu en parles beaucoup, Marie, en fait, de ce double standard. Est-ce qu'on peut...
C'est ça, c'est soit totalement rejeté, soit fétichisé. Il n'y a pas d'entre-deux. Mm. Effectivement, la fétichisation, c'est-à-dire que du coup, on va être désiré uniquement parce qu'on est gros, c'est pas parce que je m'appelle Marie de Brouwer.
Ouais. Et du coup, dans Euphoria, c'est un peu dénoncé. Je sais pas si t'as vu la série, Marie.
J'ai pas vu encore, je suis en retard.
Après, je trouve qu'on est quand même toujours à la limite, quoi. Enfin, l'épisode où on introduit Kat, par exemple, il commence, donc on nous montre une jeune fille normale qui a un petit copain, voilà, c'est une ado classique. Elle part l'été en vacances, je sais plus où, en Amérique du Sud, et en fait, elle va se goinfrer de pina colada, bim, elle va prendre des kilos. Son copain, à la rentrée, finalement, reste avec elle le temps de quelques heures, puis la plaque. Donc déjà, ça
parce
commence par ça, parce qu'elle grossit.
Yeah,
et puis, en termes de mise en scène... ça veut dénoncer, mais clairement, tout le monde a envie de rigoler quand on voit une espèce de zoom hyper rapide sur bim bim les 27 pina colada. T'es là, alors gros, parce que j'ai trop mangé et faut quand même qu'on en rit. Après, il y a tout un arc narratif assez intéressant, c'est-à-dire cette idée que finalement, elle est trop grosse, elle est rejetée par son copain, donc elle va rester chez elle, elle va écrire des fanfictions hyper sexualisées et être hyper populaire. Donc on peut se dire, attention, un peu cliché de la grosse frustrée qui va s'imaginer avoir une vie sexuelle hyper débridée, totalement virtuelle. En fait, rapidement, quelques minutes après, on se rend compte qu'elle va se réapproprier ça dans la vraie vie et donc sortir aussi de ce truc de « c'est ok, mais dans un monde alternatif », entre guillemets. Et on a une scène, du coup, de relooking, totalement improbable pour un personnage du coup gros, mais qu'on voit aussi dans Mamadou Fadjari, où elle se relook finalement en meuf hyper normée. Mmh. Et puis elle dit finalement, ah, ça me plaît pas, ça me colle trop, ça me sert, mais elle accepte le jeu. Là, du coup, on voit dans Euphoria, elle va se relooker déjà toute seule, il n'y a personne qui lui impose, elle a envie. En fait, elle va se relooker presque comme elle s'habille, juste un peu plus court et un peu plus sexy. Et elle va devenir camgirl. Donc ça pose aussi cette question de, alors on choisit un autre espace du coup pour exprimer sa sexualité, mais qui est quand même plus réel qu'une fanfiction, et le personnage est rendu hyper désirable, les fans sont hyper fans d'elle, elle, bah, elle était mannequin avant, donc c'est aussi plus facile pour elle d'arriver à se réapproprier ça aussi, entre guillemets. Donc c'est permis pour elle parce qu'elle vient aussi de ce milieu là entre guillemets.
Mm-hmm. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu Empire, dans les contre-exemples, ils ne sont pas très nombreux, mais je ne sais plus comment s'appelle l'actrice.
Je crois que c'est Gabourey Sidibé.
Exactement, donc qui est noire, qui est grosse et qui est même très grosse, et ça c'est, je le souligne parce qu'en vrai de vrai, il n'y en a pas 500 des actrices très grosses à l'écran.
Et c'était l'actrice principale du film Precious aussi.
Ouais, c'est ça.
Le rôle principal.
Ouais, dont on peut reparler, qui est quand même hyper problématique aussi sur ça.
Ouais, ouais. C'est vrai que pour le coup. Mais dans Empire, elle joue un perso, un des personnages, et à un moment, elle a une histoire. Je sais plus exactement si c'est. Je crois que c'est même que du sexe. Enfin, en tout cas, elle a une histoire avec un mec qui est mince et noir. Bref, scène de sexe, comme il y a toujours des scènes de sexe dans des séries, des films. Mais le retour sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, c'était mais impossible que cette meuf puisse pécho ce gars-là, c'est dégueulasse. Enfin, vraiment, les gens avaient été choqués, outrés, que ce perso ait une vie sexuelle, quoi. Normal, vraiment normal. Et je me dis, ah ouais, les gens sont vraiment très, très, très en retard. Vous savez que les gros ont des rapports sexuels, hein, pour info.
En plus, ce que je trouve assez bien dans cette scène-là, c'était une réponse justement à Precious, avec ce côté dans Precious, donc l'ado, très clairement, fantasmait d'avoir des relations sexuelles, clairement, qui n'arrive jamais dans le film, à part malheureusement avec son père, donc, qui était quand même hyper dérangeant. Donc elle avait tout ce rapport en plus avec l'inceste, etc. Mais sinon, elle n'avait pas le droit d'avoir une sexualité maîtrisée et non pas du tout subie. Et donc elle fantasmait sur un mec, forcément, blanc, mince, etc., avec ce truc de c'est un fantasme, mais c'était vraiment montré tel quel. Et donc, j'ai trouvé ça assez cool qu'on arrive à se saisir de ça et qu'on lui offre ça aussi dans un autre film, dans une série, parce que si on était resté à Precious, enfin, my God, quoi. Precious, c'est vraiment, je trouve aussi, c'est l'autre cas un peu plus mineur, mais si on sort d'Hollywood, c'est-à-dire si on sort du coup des canons, et en série, c'est pareil, ça reste quand même plutôt des en général, les codes un peu canoniques, et qu'on va vers le cinéma indépendant, où le principe, c'est faire exprès, enfin, je schématise, mais faire exprès de faire l'opposé d'Hollywood. Du coup, toute la question du poids est vraiment montrée dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que le poids est un poids, être en surpoids est un problème social. Et donc, souvent, se lie à d'autres problèmes sociaux. Et alors, Precious, c'est l'exemple canonique. Donc, non seulement elle est grosse, mais en plus, elle est noire. En plus, elle a le sida. En plus, elle s'est faite violer par son père. Et du coup, elle a eu un gamin qui est trisomique. Plus, elle se fait battre par sa mère, elle-même en surpoids, qui récupère les aides sociales, donc qui ne va pas au travail, qui lui jette une télé en pleine gueule. Et voilà, il y a vraiment ce truc dans le cinéma indépendant, se dire, on est plus réaliste. Du coup, on est moins sur le fantasme hollywoodien de finalement, être gros, ça peut quand même être cool, où on vous montre que vous pourrez quand même avoir la belle vie, malgré tous les aléas un peu problématiques. En faisant l'inverse et en faisant croire que c'est plus réaliste. Moi, je parlais avec des potes qui me disaient très, très clairement, oui, mais ça existe. Alors, oui, ça existe, mais clairement, je pense que c'est une ultra-minorité. Et c'est pas parce qu'il y a tout d'un coup sur ce personnage-là que c'est plus réaliste. Mais je trouve que quand même que ce filtre-là a fait croire à des gens qu'effectivement, tout est lié à une espèce d'ensemble de problèmes. Et dans les séries pour ados, on voit ça aussi souvent. Avoir un problème de poids est clairement montré comme un problème.
C'est souvent associé à la pauvreté aussi.
Voilà. Des questions de classe, du coup souvent des questions de race aussi, et donc un ensemble comme ça de déviance à un moment donné pour vraiment insister sur le fait qu'on est hors norme, quoi.
Après, c'est une réalité aussi que la pauvreté fait partie des facteurs de l'obésité, quoi. On dit que l'obésité, c'est multifactoriel, et la pauvreté, c'est peut-être le premier truc. Donc, c'est un sujet qui serait hyper intéressant à traiter au cinéma. Mais effectivement, oui, là, dans Precious, ils ont tout mis, quoi. Ils ont fait, ils ont fait la valise, ils ont mis en haut, on va tout mettre. Régalade, non.
Et du coup... Bon, bah, je sais pas si vous avez autre chose à dire sur la grossophobie dans les films et les séries, s'il y a d'autres choses qui la caractérisent, ou est-ce que vous la voyez encore?
Je trouve que dans les dessins animés, on n'en parle pas assez. Le débat commence un peu à venir, mais sur les proportions des corps dans les dessins animés.
Les méchants. C'est,
ouais. Alors, il y a ça aussi, la fonction. On n'a pas tellement parlé, effectivement, aussi à quel type de caractère et quelle est la fonction aussi des personnages gros. Donc, c'est souvent effectivement des méchants, des antagonistes. Chez Disney, c'est hyper visible. Enfin, tous les méchants sont gros ou gays, de toute façon, mais les deux vont ensemble. Vraiment sur la question des proportions, puisque dans les dessins animés, on sait que toutes les proportions ne sont pas respectées. Et d'ailleurs, on est hyper étonné dès qu'il y a un corps qui est correctement proportionné. Mais le fait qu'on est encore plus dans une loi de l'ultra-minceur avec une taille qui est plus petite qu'un petit doigt, enfin, ça va pas. Du coup, tous les personnages gros sont trop, vraiment, pour le coup, disproportionnés à l'inverse aussi. Moi, je me rappelle Cendrillon, le premier truc quand on voit donc, la petite souris Gus-Gus qui, du coup, est gros. Première blague qui tombe, son t-shirt est trop court. Mais qui était un truc qu'on voyait tout le temps. Donc, il y avait toujours les mêmes types d'humour. Les vêtements sont trop courts. On finit toujours, à un moment donné, par avoir un ventre. Oh, ça devrait me choquer ou ça va me faire rire. Et surtout, vraiment, dès le plus jeune âge, on associe le poids à trop manger. C'est pas réinterrogé après pour les films pour ados. Bim, on arrive effectivement avec des films pour adultes où ça y est, ça fait 20-30 ans qu'on est habitué à voir ça et où les productions pour adultes ne jouent pas plus leur rôle, en fait. Et plus personne ne le déconstruit, parce que dès le plus jeune âge, on s'y habitue, en fait, c'est OK, quoi.
Ouais, c'est clair. Et l'autre jour, donc, j'ai tourné un épisode d'Affiché sur le casting, et je recevais Deborah Lukumena, qui est une actrice qui est grosse et noire. Et donc, elle me disait qu'en fait, elle vivait tout ça, parce qu'en fait, elle a été découverte dans Divine, qui est, en fait, ça m'a fait penser à ça quand t'as dit qu'il arrive pas à passer par le trou, parce qu'en fait, dans
la
Divine...
La fin de Divine, quoi. Est-ce
c'est ça.
On peut en parler. Enfin,
ah, mais c'est, en fait...
Sous couvert de réalisme. Là, en plus, on n'est plus du tout sur le comique. Hein. Ça devrait me faire pleurer, en plus.
Ouais. Parce qu'en plus, son poids n'est jamais Enfin, on n'en parle jamais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et c'est pas du tout un sujet, et c'est terrible cette fin. Et en fait, elle m'a dit, bon, c'est aussi la première femme noire à recevoir un César de la meilleure actrice dans un second rôle, et aussi la plus jeune, il me semble. Et elle me racontait que, en fait, elle, le fait qu'elle soit grosse et noire, ça lui apporte beaucoup dans le cinéma, parce que du coup, les rôles sont écrits pour elle, et qu'elle a pas, autant de compètes. Et voilà quoi, mais du coup elle se retrouve toujours dans le même genre de rôle, quoi.
Oui, c'est ça, c'est que du coup on va, enfin, comme on met une étiquette sur les personnages gros à chaque fois, et puis la fin de Divine, pour vous elle est problématique, par exemple?
C'est pas ouais. Qu'elle est problématique, enfin, moi je l'ai pas vue, mais je me suis dit
quoi,
enfin, j'ai pas compris, en fait.
Ouais, parce qu'en même temps c'est aussi une réalité. Quand on sait, je parlais de quand on sait que en fonction de son poids, on peut pas forcément être pris en charge par les pompiers, on peut pas être forcément pris en charge dans les hôpitaux, ça c'est une réalité. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas accès. On va laisser. Enfin, il y a eu cet épisode horrible où il y avait un mec très gros dans un immeuble et les pompiers ont mis des semaines à essayer de le sortir de là. Bon, là c'est le cas un peu. Extrême qui a été médiatisé, etc. Mais en soi, ça, c'est des choses qui peuvent vraiment arriver. L'accès, le comment on peut sortir d'un endroit, enfin, c'est je sais pas.
Moi, le truc, c'est que vraiment, déjà, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe.
Ouais. Et, oui, voilà, mais c'est ça, dit, en fait, j'étais surprise.
Je n'y attendais pas, en fait, j'ai trouvé ça d'une cruauté pour un personnage qui ne méritait pas, en plus. Enfin, et du coup, je me suis dit, enfin, non, enfin, ce type de personnages, déjà, sont très rares en France, enfin, ouais. Encore plus qu'aux États-Unis. Pourquoi ? Enfin, alors que c'est un film qui a quand même été vendu et reçu après comme un film plutôt assez progressiste et qui a plutôt cassé beaucoup de choses. Donc, sur le coup, quand il écrit, je pense qu'ils ne disent pas forcément ça, mais pourquoi ? Pourquoi c'est ce personnage-là ? Et du coup, ça me paraissait quand même une ambiguïté finalement assez révélatrice de ce qu'on réserve comme sort à ces personnages-là.
Ouais, finalement, c'est un peu les représentations qui sont hors normes au cinéma.
C'est ça, et puis c'est surtout... ça se pose même la question... Enfin, la question se pose à l'écriture, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ton personnage principal dans un film... Mais j'en sais rien, un film qui parle d'une croisière en bateau, je m'en fous. Pourquoi ton perso, il n'est pas gros? C'est ça, c'est inversons le truc. Prenons tous les persos minces. Pourquoi cette personne est mince? Est-ce que si ce perso est gros, ça change quelque chose dans son histoire? Pas forcément. Et on n'y pensera jamais. Enfin, c'est ça. Mais comme on s'ouvre de plus en plus à la diversité, etc. Mais le chemin est encore long parce qu'effectivement, Glee par exemple, c'est vraiment un parfait exemple. Il va y avoir une grosse, une machin, etc. On fait la liste, hop, toutes les différences et on en prend de chaque quoi.
Moi, je suis partie d'une série qui s'appelle Shrill, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ouais, moi je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu parler.
Et qui s'ancre dans un mouvement qui s'appelle la fat acceptance, qui est différente du body positivisme. Ouais. Parce que, alors, le body positivisme, tu veux en parler, Marie ?
Non, le body positive, c'était un mouvement à l'origine qui est né par les femmes grosses racisées. Et puis ça s'est un peu ouvert à être positif, à accepter tous les corps. Mais c'est très très lié à la beauté, c'est que tous les corps sont beaux, peu importe. Et du coup, on est passé de s'accepter quand on est gros dans cette société grossophobe à j'ai des vergetures, hashtag body positive. Et du coup, plein de personnes hyper normées utilisent aussi ce hashtag. Et évidemment, c'est devenu un truc marketing. Regardez, je suis une marque de lingerie, je suis une marque de machin, mais j'ai mis une mannequin qui a des poils, hashtag body positive.
Oui.
Donc c'est devenu hyper market. Et la fat acceptance, effectivement, c'est autre chose, puisque déjà, on revient sur le fait d'être gros.
Oui, parce que c'est complètement désempouvoiré.
Oui, désempouvoiré, je
sais pas. Unempowered. Non, mais ouais, c'est vrai, parce que c'était les femmes noires et grosses qui s'étaient emparées du body positivisme, et comme ça leur est complètement échappé, le fait d'avoir fat acceptance, déjà, rien que dans le choix des mots, c'est important, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et du coup, ça revient vraiment à ces premières, aux prémices du body positivisme. Et, et donc, Shrill, ça s'inscrit un peu là-dedans. Est-ce que vous pensez que ça commence à se traduire un peu dans les films et les séries aujourd'hui ? Est-ce qu'on est trop tôt ? Est-ce que vous y croyez ?
Moi, je pense qu'il y a encore trop... déjà, historiquement, le fait que les premiers films, les premières représentations à essayer de dire qu'on peut être gros et s'accepter, c'est très lié au comedy fat suit, donc vraiment avec cette idée qu'on met un costume de gros et qu'en fait, en dessous, on sait qui est en dessous. C'est un acteur mince qu'on connaît par cœur. D'ailleurs, les comédiens ne marcheraient pas si je ne connaissais pas l'acteur ou l'actrice. Ça marche parce que je la connais, je la désire déjà, je sais déjà à quoi elle ressemble. Et donc, du coup, tout ce truc de « oui, derrière la grosse ou le gros », il y a quelqu'un de mince et donc de beau. Toutes les représentations, elles sont encore trop liées à ça. Trop liées à cette idée que pour être beau, il faut d'une certaine manière être lié au code de la beauté traditionnelle. Je vois vraiment sur toute la réception sur les actrices aujourd'hui, du coup, qui sont grosses, qui l'assument et qui sont clairement des exemples pour tout le monde. Ça passe aussi par se réapproprier tous les codes de la beauté ultra hégémonique. Je vois par exemple, moi, j'avais vraiment adoré dans Orange is the New Black le fait qu'on ait des corps très très différents et justement en opposition au corps de l'héroïne blanche mince et vraiment le canon, et on a des corps très très différents, en plus des personnages racisés, etc. Et pas forcément hétéros, et en même temps la plupart des actrices sont appréciées parce qu'en dehors, elles correspondent aussi à des canons. Du coup, tout le monde discute leur robe, leur make-up, le fait qu'elles soient plus glow-up que les actrices blanches et minces. Il y a toujours ce truc qui est très lié. Enfin, je pense que tant qu'on ne se débarrassera pas de ça, je pense que le cinéma ou les séries n'arriveront pas à avancer. Parce que c'est aussi pas, le mouvement ne dit pas qu'on doit s'accepter en ressemblant au canon de beauté traditionnel. Et le cinéma est trop lié encore à ça. Enfin, on n'arrivera pas tout de suite, en tout cas, je pense. Et même dans les séries.
Et puis, ce qui est dommage, c'est quand on fait son chemin dans la réflexion sur la grossophobie, effectivement, enfin, là, je prends mon cas très personnel, mais il y a cette première étape de, voilà, il faut s'accepter comme on est, faut se trouver beau ou belle, peu importe, et voir au-dessus des normes. Et puis, il y a la marche juste après qui est « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on me trouve beau ou belle, que je me trouve beau ou belle ?» Arrêtez de me donner une nouvelle injonction. Parce que, par exemple, moi, de voir des comédiennes grosses, hyper pimpées, etc., qui sont très belles, je les trouve très belles, mais en fait, ça m'a mis une autre injonction. C'est-à-dire que je ne vais plus m'identifier et me dire « Ah, il faut que je ressemble à l'actrice mince. » Ça va être « Ah, il faut que je ressemble à l'actrice grosse, qui est grosse et belle et sexy, en dehors des films. » Et ça, pour moi, ça pose la question de toujours remettre ça sur la beauté, le fait d'être désirable ou non. Et alors que, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu, quoi? Et donc, ouais, c'est un chemin qui
est encore très long.
Qui est encore très long, ouais.
Mais il y a, alors je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi, je trouvais qu'il y avait une femme aussi qui mettait en avant beaucoup de corps différents dans un hôpital. C'était Shonda Rhimes dans Grey's Anatomy. Et en fait, rien que le personnage de Miranda Bailey, qui est une femme noire, grosse et qui est médecin, et que, enfin, moi je trouvais ça déjà, enfin, a posteriori, parce qu'en fait sur le coup, j'ai même pas capté, tu vois, mais a posteriori, je suis là, bah ouais, en fait. C'est un statement quand même.
Oui, je pense que les représentations, elles vont effectivement aussi changer lorsqu'on questionnera les comment on écrit un personnage. Effectivement, même se débarrasser de la question de la beauté, mais qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont les traits de caractère qu'on lui donne? Est-ce qu'on doit être forcément gros et sympa? Ou alors gros et très méchant? Mais est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux? Est-ce que je ne peux pas aussi être un personnage finalement aussi imparfait? Est-ce que je dois forcément être le modèle de minorité parfait ou l'extrême inverse de menace? Et surtout en termes de fonction, c'est-à-dire orange, c'est cool, mais elles sont quand même en tôle, quoi. Bon, voilà, c'est toutes des délinquantes. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut leur donner des jobs comme tout le monde? Et chez les ados, du coup, par exemple, on ne peut pas questionner ça parce que les ados n'ont pas de métier. Et du coup, comme il y a aussi moins de personnages gros chez les adultes, ou alors la plupart, c'est des comédies, des rom-coms. Donc, en fait, on s'en fout de leur métier. Leur seule fonction, c'est est-ce qu'elles vont être en couple ou pas en couple. Après, il y a quand même quelques séries maintenant qui travaillent ça en proposant d'autres métiers, etc. Mais il y a quand même cette question-là. En fait, souvent, les personnages n'ont pas de vie, en fait, n'ont pas de traits caractéristiques, à part effectivement être plus ou moins cadrés par leurs conditions sociales et finalement leur rapport à un physique, quoi.
Mais je trouve que c'est vrai que My Mad Fat Diary était pas mal, parce que pour le coup, le perso principal qui est gros et on en parle, etc., elle fait de la merde, quoi. Elle est pas parfaite du tout. Et on commence au tout début avec sa meilleure copine qui est hyper normée, etc. Où on se dit, ok, ça va être la grosse qui subit la vie et la mince qui a la vie parfaite parce qu'elle est mince, etc. Et puis petit à petit, on se rend compte que le perso gros fait des erreurs, n'est pas parfait, dit des bêtises, etc. Et le personnage mince, sa meilleure copine, n'a pas la vie parfaite parce qu'elle est mince. C'est aussi une adolescente qui a ses problèmes, etc. Et je trouvais ça assez chouette.
J'avais bien aimé la série Huge aussi, qui a été annulée au bout d'une saison, donc qui n'est pas hyper connue, qui doit dater de 2010-2011. Je suis toujours très nulle pour les dates, qui était assez cool. Alors bon, on est sur un trope classique, on est sur un camp avec des gamins du coup gros qui arrivent et qui passent leur été sur le camp, et la série est assez cool sur ce rapport là de finalement rapidement l'objectif n'est pas du tout d'être dans un camp où on va perdre du poids. Et on est vraiment sur un camp où voilà, il va y avoir des sessions où on va discuter, où les ados du coup sont totalement entre eux, vont devoir s'accepter, effectivement avec les hauts, les bas, et sans que personne leur donne une injonction d'être des gros parfaits. Même si ça ne dure qu'une saison, on merde beaucoup et on essaye des choses. Effectivement, du coup, il n'y a pas de normes à côté. En fait, il n'y a pas du tout ce rapport très binaire dans la série. Et donc, comment on fait quand on est débarrassé de ça et que entre eux, dans un cadre à un moment donné provisoire qu'est un camp, on peut re-questionner des normes et s'en débarrasser, en fait. Je trouve que la série était assez cool sur ça. Après, ça ne m'étonne pas que ça n'ait duré qu'une seule saison, et voilà, que finalement, ce ne soit pas allé plus loin, mais qui était plutôt assez en avant sur ces questions-là, je trouvais. Et débarrasser de... pour s'accepter soi-même et être accepté par les autres, il faut, entre guillemets, se soumettre à toutes les injonctions hyper normées. Mais la série de se débarrasser beaucoup de ça aussi. Parce qu'on s'est débarrassé du binarisme aussi. Et du fait d'un régime de l'exceptionnalité où il y a un, voire deux personnages. Là, voilà, tous les personnages étaient sur ça. Sont joués par des ados qui, eux-mêmes, du coup, ont participé à l'écriture parce qu'eux-mêmes vivaient ça au quotidien. Et du coup, la série repose des enjeux totalement différents parce qu'on sort aussi de ce rapport hyper binaire, quoi. de comparaison et d'hierarchie, quoi.
Et j'avais fait j'avais tourné un épisode d'affiché avec Sabrina Beccarine, qui est donc une scénariste française, et qui m'avait dit qu'en fait, elle, ça peut ne changer qu'à travers des postes clés. Enfin, toutes ces histoires de représentation, c'est les postes clés qui peuvent en décider, donc notamment au scénario, t'es à l'origine de l'histoire. Et donc, elle disait qu'aujourd'hui, elle avait choisi de ne plus décrire physiquement ses personnages, et notamment ses personnages féminins. Donc, voilà, moi j'ai de l'espoir, j'avoue.
il faut avoir de l'espoir, mais...
Ouais. Et avant de terminer, j'aimerais bien que vous me fassiez des recos de films ou de séries pour lutter contre la grossophobie, des films ou des séries que vous trouvez qui représentent plutôt bien les personnes grosses et notamment les femmes.
Bah, moi, je peux parler de This Is Us, que je viens de commencer. Je crois qu'on est à la saison 5 ou 6, un truc comme ça. Moi, je suis encore à la saison 2. Donc, je suis au tout début, ça se trouve. Il y a un moment, ça...
Et tu pleures chaque soir.
Et ça... Alors,
ça va, ta vie.
Je fais que chialer. En plus, moi, je suis très, très sujette au chial. Je pleure vraiment très facilement. Mais alors là, c'est vrai que c'est très tire-larme. Mais pour le coup, il y a une femme grosse qui est vraiment grosse, qui est maquée avec un mec gros. Et en fait... Et ils vont poser toutes les questions de elle a envie de perdre du poids, etc. Genre, son poids est un enjeu dans la série, mais c'est hyper bien fait. Et c'est, enfin, selon moi, hein, franchement, après, peut-être que quelqu'un d'autre qui a vécu la même histoire va trouver ça offensant ou quoi. Moi, en tout cas, je me retrouvais plutôt dans le propos. Et par exemple, quand elle va, c'est au tout début, là, je fais un spoiler sur la saison 1, mais quand elle smack avec le mec qui est gros. Il y a ce truc de non, moi je peux pas tomber amoureuse d'un mec gros parce que je suis déjà grosse, et donc du coup on va être le couple de gros. Puis en fait, de fil en aiguille, elle se rend compte que c'est un peu con de penser ça, mais c'est toutes ces petites questions là. Je me suis dit, ah, trop cool, on les aborde dans une série, c'est chouette. Donc voilà, me spoilez pas, je suis à la saison 2.
Merci Marie.
Et moi, en reco, du coup, je voulais recommander Huge et My Mad Fat Diary. Mais du coup, j'ai pensé à une autre série dont on n'a pas parlé, Drop Dead Diva. Même si on a le trope classique de... En fait, le pitch est assez simple. Une mannequin mince meurt accidentellement. Bref, elle se retrouve dans le corps d'une avocate grosse. Donc, on a ce trope de la fille mince à l'intérieur. Mais en fait, très rapidement, on oublie cette fille mince. On ne sait même plus qui c'est. Et donc, du coup, toute la série est très centrée sur des meufs qui sont très concentrées sur le rapport au poids, à la minceur, etc. Alors que l'héroïne, du coup, est grosse. Pas hyper grosse, mais grosse. Et on retrouve le trope de, un peu spoiler, mais elle va tomber amoureuse, du coup, d'un mec beau, etc. En fait, dont la meuf mince était amoureuse aussi avant, mais il se trouve que c'est la collègue de la nouvelle meuf grosse dans laquelle elle, enfin, dans le corps dans lequel elle est. Et la série est pas trop mal aussi, surtout ce rapport-là de comment on peut s'accepter et qu'est-ce qu'on fait. Et donc, explicitement, on discute et on critique ce rapport à la minceur. On parle d'anorexie, etc. Et de comment, finalement, on peut aussi, finalement, être très, très bien. Et si ce n'est mieux, dans un corps qui va un peu se débarrasser de ce rapport-là, quoi.
Et bah, merci à vous deux, vraiment, d'avoir participé à ce podcast. C'était une super discussion. Et je voudrais juste terminer en vous demandant de faire votre affiche idéale, puisque vous savez, on est dans affiché. Ce serait donc un film sur une femme grosse. Est-ce que vous avez des idées de scénariste, casting, réalisation, même si vous avez du graphisme, si vous voulez faire du marketing autour du film, enfin voilà, je vous laisse. Vas-y Marie, je te...
Alors mon affiche idéale, je pense que ce serait... Ah, c'est pas évident. Déjà, peu importe l'actrice, mais très grosse. Moi, une femme grosse acceptée où ça passe, etc. Vraiment un personnage très gros où il n'y a aucune blague très premier degré sur le fait que, que ce soit jamais le sujet. Et je sais pas, moi, je vois une affiche d'une femme très grosse, pas particulièrement sapée, pas particulièrement enjolivée, mais qui serait en train de galocher un gars, un film un peu, tu vois...
Un film romantique.
Un film romantique, mais pas rom-com, quoi. Ouais, vraiment ouais. Un peu sérieux.
Ce serait un film d'auteur.
Un film d'auteur, exactement.
J'adore.
Je trouve ça chouette.
Trop bien. Merci.
Moi, j'avais deux propositions.
Ah bah, c'est
bien. Très différentes. J'aimerais bien un film, effectivement, où il n'y a pas juste un personnage gros. Alors moi, du coup, je pense que j'aurais aimé un film, justement, avec des actrices, avec des morphologies un peu différentes, aussi parce qu'on ne les voit jamais ensemble. Plus, on ne voit jamais de sororité avec des personnages gros. Donc, j'aurais bien voulu une affiche avec des personnages un peu différents, donc type... J'aurais bien voulu voir Barbie Ferrara avec. Alors j'aimerais beaucoup voir Lizzo, mais ça c'est mon côté. J'aime bien voir les chanteuses, voir ce que ça donne. J'aimerais vraiment voir Lizzo dans un film. Après, j'aimerais bien voir tout le cast de Orange aussi. J'aimerais bien les voir un petit peu plus. Ça me plairait. Voilà.
Ça devient un gros affiche. Film là, Célia. Je sais pas si on a le budget.
En tout cas, avec plusieurs. Et surtout, je voudrais pas une rom-com, pas un truc, pas lié à la sexualité, etc. Je voudrais un truc, même si je déteste Marvel, un truc un peu plus héroïque. Voilà, avec des meufs badass. Faites-nous un petit Kung Fu Panda version fille. C'est très bien. Voilà, un truc cool avec plusieurs meufs badass. Pas forcément trop fantasy, etc. Parce que c'est cool de dire que dans la vraie vie, on y a le droit aussi et qu'on n'est pas obligé d'imaginer un monde alternatif. Et ma deuxième affiche, puisque c'est le gros truc de Disney de faire des remakes live sur les méchants, c'est cool que la petite sirène soit noire pour le prochain. Maintenant, je voudrais un remake sur Ursula, puisque c'est leur grand truc de prendre des méchantes. Et prendre Ursula, alors du coup, je vais un peu changer la donne, mais j'aimerais bien voir un drag queen refaire Ursula. Si Divine était encore là, parce que c'est lui qui avait inspiré Ursula, j'aurais aimé. Mais aussi travailler ce rapport-là, de quelque chose de moins hétéronormé, de retravailler aussi ce rapport de mixité genrée et du fait de comment aussi, du coup, des drag queens gros ont réinventé aussi, d'une certaine manière aussi la féminité, repris de la féminité hyper canonique, et voilà, et voir Ursula accepter le pacte et de retourner sur Terre et de devoir galérer comme la petite sirène à apprendre la féminité classique et à leur dire je vous emmerde tous, en fait je suis très bien comme une grosse et une totale queer. Voilà, j'aimerais bien voir ça.
Waouh, bon ces films ils ont l'air mieux que les
Moi j'aime les trois. En vrai, moi je me dis, allez, on lance une petite boîte de prod.
Let's go.
Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci à toi.
Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Affiché. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Parlez aussi du podcast autour de vous, vous savez comme on est friande du bouche à oreille. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de la première saison d'Affiché.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.